Radio Kapi.
Manifestations dispersées dans plusieurs coins du pays ce lundi. De nouvelles manifestations appelées par la plateforme politique Lamouka pour protester contre l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ransar Malonda comme président de la CENI. Déconfinement de la province du Sud Kivu. Le comité provincial de riposte dit préparer un plan pour la reprise prochaine des activités économiques dans la province. L'invité de la rédaction ce soir, c'est Givano Kachemwa, médecin congolais résident à Bukavu. Il a remporté vendredi aux États-Unis le prix d'une étude consacrée aux conséquences du VIH-Sida sur les personnes victimes des viols. Bonjour et bon début de semaine à tous. Marche pacifique de la coalition Lamouka à Kinshasa pour dire non à la désignation de Ransar Malonda à la tête de la CENI. La police s'est interposée pour limiter cette manifestation au niveau de l'échangeur de Limété. En effet, une foule immense avec à sa tête Jean-Pierre Bemba, l'un des leaders de Lamouka, qui a quitté la place Pascal à la Tchangou, a été stoppée à l'entrée de la commune de Limété. Toutes les tentatives des manifestants ont été vouées à l'échec à cet endroit. Des bombes à gaz lacrymogènes et les véhicules canons à eau anti-émeute ont été mis à contribution pour stopper l'avancée des marcheurs que même la plus surprise de ce matin n'avait pas réussi à arrêter. Le point avec Jacques-Yves Molima.
Tout a commencé à la place Pascal à la Tchangou, où Jean-Pierre Bemba avec des centaines de manifestants s'avançaient vers le centre-ville. Cette foule scandant des chansons contre l'enterrement de Ransar Malonda grossissait à force qu'elle avançait. Vu de haut, c'était une marée humaine qui serpentait le boulevard Lumumba, remontant Pont Matete avant de gagner l'échangeur de Limété, où les autres manifestants attendaient pour grossir le rang. Mais c'était sans compter avec l'important dispositif sécuritaire anti-émeute placé à ces niveaux par la police. En effet, le largage des bombes à gaz lacrymogènes ne se sont pas fait entendre pour disperser les manifestants. Une situation décriée par un manifestant.
C'est pas bien nous, population, on a le droit de marcher. On a le droit de marcher pour la nation, mais on a tenté de nous faire comme des ennemis, mais on sait pas, mais nous tous, nous sommes les Congolais.
Dans cette confusion, Jean-Pierre Bemba réussira à s'exfiltrer pour regagner sa résidence. Notons que quelques manifestants ont été interpellés par la police.
À Lubumbashi, initialement annoncée pour ce lundi, la marche de Lamouka n'a finalement pas eu lieu tel que le voulaient les organisateurs. D'après nos sources, elle aurait été reportée sur demande de la Fondation Katangaise. Toutefois, à certains endroits, certains militants tentaient de s'organiser pendant que la police était déployée sur plusieurs artères de la ville. C'est ce que nous dit Jean Gadou.
D'après une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit les membres de la Fondation Katangaise partir ce dimanche soir rencontrer Moïse Katumbi, l'un des organisateurs de la marche. À en croire leur président, ils l'ont fait voir que le moment n'était pas indiqué pour organiser cette manifestation car il y aurait des infiltrés et des gens préparés pour saboter cette marche par des actes répréhensibles qui seraient au bout du compte portés contre lui. Ainsi, ils lui ont demandé de reporter cette manifestation le temps d'harmoniser avec les autorités pour que cette marche se tienne dans de bonnes conditions. Entre-temps, les dispositifs policiers sont visibles sur certaines artères de la ville, notamment à la grande place de la Poste. Jusqu'à présent, Moïse Katumbi lui-même ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Notons que le maire de Lubumbashi a dans un communiqué porté à la connaissance de la population que la marche est interdite car le pays est dans un état d'urgence sanitaire. Malgré cette interdiction, certains partisans de Moïse Katumbi tenait à marcher coûte que coûte. Car, disent-ils, c'est pendant l'état d'urgence sanitaire que la société civile du Haut-Katanga a marché la semaine dernière jusqu'au gouvernorat de province où elle a déposé son mémo entre le maire du gouverneur Jacques Kiaboula. Une politique de deux poids deux mesures, dénonce-t-il. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, des éléments de la police ont étouffé ce lundi à Beni la marche de Lamouka et du RCD-KML. Le maire intérimaire de cette ville, qui avait interdit la veille cette manifestation, a toutefois reçu une délégation restreinte des responsables de ces organisations politiques pour recevoir leur déclaration. Le compte rendu de Martial Papimoukeba.
Déjà tôt le matin, des éléments de la police étaient positionnés au rond-point Enra, considéré comme point de départ de toutes les manifestations dans la ville de Beni. Et pendant que les militants de la Mouka et du RCD-KML s'apprêtaient à partir des celliers pour cette manifestation, la marche a été rapidement étouffée par la police. Une situation dénoncée par Blaise Moussoubao, secrétaire exécutif du mouvement social MS Beni, qui s'interroge de l'existence d'un état de droit droit en RDC.
L'état de droit que prône l'actuel président de la République, on ne sait pas si ça s'exécute où. On reconnaît trois personnes qui viennent d'être embarquées dans les camionnettes de la police et nos drapeaux ont été déchirés. Quelle police peut déchirer les drapeaux des partis politiques?
Les personnes arrêtées au nombre de 10 sont identifiées comme les cadres du RCDKML. Selon des sources policières, la police souhaite d'abord les auditionner et obtenir l'avis du procureur près le tribunal des grandes instances de Béni sur leur cas en cas de probable libération. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Dans le même temps, au centre du pays, à Kananga, la marche de partis membres de la coalition Lamouka a été également dispersée ce matin par la police. Les organisateurs, transportés par une jeep de la police, ont tour à tour déposé leur mémorandum à la mairie et à la MONUSCO. L'autorité urbaine leur a rappelé le respect de la mesure du gouvernement interdisant toute manifestation en cette période d'état d'urgence. À Kananga, la correspondance de Blaise Dongala.
Débutée vers 8h30 sur l'avenue Lusambo, cette marche a été dispersée à l'aide des gaz lacrymogènes quelques minutes après par les éléments de la police. Les manifestants avec l'air cache-nez s'étonnent d'avoir été réprimés après avoir tout fait dans les respects des mesures barrières. Des d'entre eux s'en sont sortis avec des blessures légères. Dans leur mémorandum, ils exigent entre autres les retraits des propositions de loi Minaku et Sakata qui, selon eux, visent à torpiller l'indépendance de la justice congolaise. Ces manifestants recommandent également les rejets de l'entérinement de Roussar Malonda et la réforme profonde de la CENI avant toute désignation de ses animateurs, comme indiquent les deux.
La Mouka Kassai centrale exige ce qui suit. Le retrait des lois initiées par Minaku et Sakata, le rejet de l'entérinement de Roussar Malonda, les réformes profondes de la Commission électorale nationale indépendante préalable à toute désignation de ses futurs animateurs. La dissolution de l'Assemblée nationale, véritable caisse de résonance du FCC.
De son côté, Madame le maire de la ville a rappelé le respect des mesures du gouvernement interdisant toute manifestation en cette période d'état d'urgence. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Et puis à Kalemi, la marche s'est d'abord déroulée sous la surveillance de forces de sécurité qui ont circonscrit le champ d'action des manifestants, mais la Mouka parle de 6 personnes interpellées. Certains journalistes qui couvraient la manifestation ont vu leur matériel de travail ravi par la police qui les a retournés par la suite. La marche organisée à Kongolo a été violemment dispersée par la police. C'est aussi le cas à Mbujimayi où finalement quelques cadres locaux de la Mouka ont été embarqués dans la jeep de la police jusqu'à l'Assemblée provinciale, point de chute de la marche pour y déposer leur mémorandum. À Isiro enfin, la marche de la coalition Lamouka a aussi été dispersée par la police au niveau du marché central de la ville. Le député provincial du Haut-Ouélé, Hervé Ndouté, membre de cette coalition, parle de l'arrestation de 12 personnes. De son côté, la police nationale congolaise se félicite de son professionnalisme au cours de marches organisées ce lundi matin sur toute l'étendue de la République. À la fin de la marche de la Mouka, le porte-parole de la PNC affirme n'avoir enregistré aucun cas de décès, blessé, ni aucun dégât matériel et que la situation est calme sur toute l'étendue de la République. Pour le colonel Pierrot Mwanamputu, les quelques militants interpellés ont déjà été relâchés, à l'exception des bandits communément appelés Kuluna. Le colonel Pierrot Mwanamputu est au téléphone de Michel Kifindangoy.
Il y a un calme relatif sur toute l'étendue du territoire national. On n'a enregistré aucune perte en vie humaine. Alors je pense que c'est le moment de jeter des fleurs aux éléments de la police nationale congolaise qui ont agi avec professionnalisme. Donc il a été demandé qu'on puisse élargir à toutes les personnes interpellées, à l'exception de quelques cas de Kuluna.
Donc en quelque sorte, tous ceux qui étaient interpellés seront libérés dès ce soir?
Non, ils ont été libérés, à l'exception de Kuluna. Toutes les personnes interpellées ont été libérées, oui. Contrairement à ce qui se trame dans les réseaux sociaux, là, c'est des fake news. J'ai été en contact avec le commissaire provincial, sur Kivu, il m'a confirmé qu'il n'y a aucun blessé, il n'y a aucun mort.
Santé à présent. Au sud Kivu, le gouvernement provincial intensifie la lutte contre la propagation du coronavirus. Les députés provinciaux ont été impliqués dans cette campagne dans leur circonscription. Le comité provincial de riposte dit préparer un plan de déconfinement pour la reprise prochaine des activités économiques dans la province. À Bukavu, Emmanuel Elamiji.
Tous les députés provinciaux du Sud Kivu s'engagent désormais de veiller à la lutte contre la propagation des coronavirus dans leurs circonscriptions respectives. Le gouverneur de province leur a remis des objets de sensibilisation et autres matériels de protection contre le coronavirus. Dans la réunion du Conseil provincial des ministres du Sud Kivu du week-end dernier, la situation actualisée au 11 juillet 2020 indique 268 cas confirmés, 185 guéris, 42 décès et 41 cas en cours de traitement. Voilà pourquoi les gouvernements provinciaux envisagent maintenant la reprise prochaine des activités économiques. Claude Swedi Basila, porte-parole du gouvernement provincial.
L'équipe de riposte est attelée pour préparer les déconfinements à soumettre aux autorités nationales si les tendances actuelles positives se consolident. Le gouvernement provincial réitère ses félicitations au personnel de santé pour les efforts consentis dans la lutte contre la pandémie à COVID-19.
La maladie à COVID-19 affecte à ce jour une dizaine de zones de santé sur les 34 du Sud Kivu. Chaque zone touchée a été dotée d'une subvention du gouvernement pour renforcer son dispositif de prévention et de prise en charge, selon le comité provincial de riposte. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Toujours au Sud Kivu, sensibilisation de la population sur la campagne de vaccination contre le choléra dans la ville d'Uvira. Le bureau central de la zone de santé a organisé des rencontres le week-end avec plusieurs corporations des journalistes, des jeunes, des leaders religieux et de la société civile. L'objectif était de leur expliquer le contexte difficile de la maladie à coronavirus dans lequel intervient cette campagne de vaccination contre le choléra. La ville d'Uvira est l'une de 5 zones sanitaires du Sud Kivu touchées par le choléra. La campagne contre cette maladie se fera en 2 phases dans une stratégie de porte-à-porte du 21 au 25 juillet prochain et cible principalement les personnes âgées d'une année jusqu'à l'âge adulte. Explication, Fiston Goma.
Cette campagne de grande envergure a la particularité de toucher 80% de la population locale. La ville d'Uvira, située au bord du lac Tanganyika, a présenté un tableau sombre de la situation endémique de choléra. Après les récentes inondations causées par les pluies diluviennes, de nouveaux cas de choléra ont été enregistrés dans la ville, ainsi que dans les cités de Kiliba, Kagando, Sangue et les localités de la basse plaine de la Ruzizi. Freddy Mudeba est l'un des leaders de la nouvelle société civile congolaise d'Uvira.
Actuellement, la ville d'Uvira traverse un moment très difficile avec le choléra. Cette vaccination doit permettre à ce qu'il n'y ait pas de flambées, de morts, de décès pour la population d'Uvira. C'est ainsi donc que nous lançons un appel à tous les Ouvirois de pouvoir bénéficier de cette vaccination. De ne pas opposer des résistances et que les gens ne croient pas que peut-être c'est une vaccination contre les COVID-19. Vraiment, ce n'est pas une vaccination de coronavirus, mais plutôt c'est une vaccination contre les choléras qui agacent la ville d'Ouvira et les territoires d'Ouvira en général.
D'autres zones de santé comme Minova, Nundu, Fizi et Idui sont concernées au Sud Kivu par cette vaccination contre les choléras. Les personnes vaccinées à la première phase devront prendre la deuxième dose du vaccin oral afin d'avoir une immunité complète. D'Uvira, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le vice-président de la République a remis sa démission qui a été acceptée par le président Alassane Ouattara, annonce faite ce lundi par le cabinet du président ivoirien. Le vice-président a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle le 27 février. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le 7 juillet, le président Alassane Ouattara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du vice-président, affirme un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence. Près d'un humain sur 9 souffrait de sous-alimentation chronique en 2019, une proportion appelée à s'aggraver en raison de la pandémie de COVID-19, selon un rapport annuel de l'ONU publié ce lundi. D'après les dernières estimations, la faim touchait l'an dernier environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale, dit le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, rédigé avec le concours du Fonds international pour le développement de l'agriculture, de l'UNICEF, du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé.
L'invité.
Fin vendredi de la 23e conférence mondiale sur le VIH-SIDA aux États-Unis d'Amérique. La RDC a pris part à cette rencontre aux côtés des autres chercheurs du monde. Pour cette saison, c'est Dr Givano Kachemwa, résident à Bukavu, qui a remporté le prix d'une étude menée sur les conséquences du VIH-Sida sur les personnes victimes de viol. Il travaille dans un programme en partenariat avec la Fondation Panzi. Ils s'entretiennent avec Emmanuel Elamichi.
Bonjour docteur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Alors, il se clôture ce 10 juillet 2020 la 23e conférence mondiale sur le VIH-Sida. Avec vous, qu'est-ce qu'on peut savoir d'abord sur cette conférence, pour cette année spécifiquement?
Oui, pour cette année comme pour toutes les autres années d'ailleurs, hein, parce que c'est une conférence qui se tient toutes les deux années. La spécificité à cette année, simplement, c'est que à cause du contexte de Covid, c'était en mode vidéoconférence. Mais disons que en gros, la conférence mondiale sur le VIH-Sida rassemble chaque fois tous les scientifiques du monde entier pour un peu discuter des avancées de la science. Mais ce n'est pas seulement les scientifiques, mais c'est tous les intervenants dans le domaine du VIH-Sida. C'est pour échanger les expériences entre eux et savoir où est-ce qu'on en est avec, par exemple, le traitement, avec la recherche du vaccin, avec le problème des stigmatisations, les problèmes des discriminations de VIH-Sida. Et à la une, aujourd'hui, c'était en tout cas le rapport entre le Covid, l'impact du Covid sur la santé des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Vous êtes parmi les participants de la RDC. Comment vous y avez pris part? Vous y avez participé avec quoi? Qu'est-ce que vous avez apporté?
Oui, ma contribution à cette conférence était un sujet de recherche qui a été jugé excellent et pour lequel, en tout cas, le comité scientifique de la conférence mondiale sur le VIH-Sida a estimé qu'il devrait me décerner un prix par rapport à ça.
Vous voulez nous dire que c'est vous qui avez gagné ce prix?
Oui, je confirme que c'est suite au sujet de recherche qu'on a soumis à la conférence et par rapport à notre projet qu'on développe avec la Fondation Panzi, qu'on appelle le projet PEP. PEP, au fait, c'est la prophylaxie post-exposition. Ça signifie l'ensemble de tous ces médicaments-là qu'on donne aux victimes de violences sexuelles pour ne pas qu'elles contractent certaines pathologies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida.
Comment était formulé votre sujet qui vous a valu ce prix?
Oui, bon, le sujet était en anglais, mais au fait, ça traitait d'un outil de collecte des données qui consiste au fait à suivre la consommation des kits PEP à temps réel pour coordonner la réponse contre les VIH-Sida dans la province. C'est ça le sujet. Mais l'utilité du sujet, ça montre au fait et qui a vraiment fait que je mérite ce prix, c'est parce que ça a démontré à cette conférence que par la récolte des données à temps réel, on peut connaître l'ampleur de la violence sexuelle dans notre milieu. Parce que les kits PEP, en réalité, ce n'est que des médicaments qui ne peuvent être pris que par des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc, autant des kits PEP qui ont été consommés sur le terrain signifie, au fait, autant des victimes en rapport avec les violences sexuelles qui s'est passé dans un milieu donné.
Bien, alors docteur, pour terminer, gagner un prix, oui, avec ces sujets de recherche, et après le prix. Qu'est-ce qui va suivre?
Moi, je projette partager ce prix avec les autorités de la santé au niveau provincial pour réfléchir ensemble par rapport à voilà, parce que c'est un modèle qui a été entériné par les niveaux les plus élevés scientifiquement, que c'est un modèle qui marche bien et qui peut apporter une solution par rapport à la problématique de VIH-Sida. Plutôt la problématique des violences sexuelles et la prévention du VIH-Sida chez les personnes victimes de violences sexuelles. Donc, je vais partager ces informations avec les autorités pour voir, réfléchir ensemble s'il n'y a pas moyen que ce projet qui est pilote, hein, et en passant, je dois vraiment remercier le partenaire local d'exécution, la Fondation Panzi, dont le fondateur est le prix Nobel 2018, professeur docteur Mukwege. Donc, le remercier pour l'opportunité qu'il nous a donné, nous, en tant que Global Strategy, de travailler en partenariat avec eux. Donc, on espère bien que peut-être en mobilisant plus de ressources et en impliquant tout le monde, on pourrait faire l'extension de ce projet pilote à plus large échelle pour que on ait beaucoup plus d'impact aussi. Parce qu'il faut dire que on est sur 4 zones de santé, donc le gap, il est énorme.
Merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Noëlla Luzitu Kabampi et Axel Goncho. Il a été mis en onde par Willem Lungamba. Je suis Jocelyne Moussa-Opondé. Merci de nous avoir suivis.